On est en pleine saison de prix littéraires. On a appris que le Renaudot et le Goncourt ont été remis. Gaëlle Faye a obtenu le Renaudot pour Jacarandá, si je prononce bien. Jacarandá, dis-je bien. Et le Goncourt est allé à Kamel Daoud pour Ouris ou Ouri, H-O-U-R-I-S. Et on en parle des prix, des lauréats, des finalistes en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène. On a aussi beaucoup de prix littéraires qui vont sortir dans les jours prochains.
Oui.
On dirait que tous les prix nous sortent comme ça à l'automne.
Oui, autour des salons du livre, notamment celui de Montréal.
Oui, puis un peu avant les fêtes. Donc, c'est comme une manière de faire la promotion de ces titres-là. Et puis, j'ai pensé que d'en parler, ça pouvait donner des suggestions de lecture pour les gens qui cherchent à offrir un livre ou à s'offrir une lecture. Alors, dans un premier temps, la semaine dernière, la Ville de Montréal a remis le prix jeunesse des bibliothèques pour un livre jeunesse. Et ils ont remis ça à Roxane Brouillard pour un album qui s'intitule « Le dessin trop mignon ».
Est-ce que vous l'avez lu, Anne-Marie?
Ah oui.
Oui,
oui. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que c'est complètement absurde, comme ce qu'elle écrit en général. Elle a écrit « Mon chien banane ».
Ah oui.
Où quelqu'un promène une banane, puis tout le monde dit que c'est une banane, puis elle dit non, c'est un chien. Elle a aussi écrit « As-tu vu ma bicyclette? » Donc, c'est un style qui lui est propre. Et puis, c'est illustré par Caton, qui est une BDiste illustratrice, qui va faire de ce livre-là un livre où les pages, les doubles pages, explosent de petits détails, de folie, puis avec des phylactères qui nous donnent vraiment l'impression d'être parmi la classe où ça se déroule. Parce que cet album se déroule en classe alors que le héros Martin s'ennuie terriblement pendant son cours de mathématiques. Alors, quand son professeur a le dos tourné, il va dessiner quelque chose. Puis là, il sort ses crayons. Puis, quand il regarde le résultat, je cite, « Il en reste figé. C'est qu'aucun être humain ne peut supporter la vue d'un tel degré de mignonnerie. » Alors, Mme Béatrice, la professeure, dit « Qu'est-ce qui se passe? » Parce que là, il va lancer un grand cri. Elle aussi, elle va crier quand elle va voir le dessin. Les élèves de la classe, les classes à côté, dehors, le quartier, les pompiers, tout. C'est complètement fou. Ça m'a fait penser à Robert Munsch, qui fait des livres pour enfants, où tout est toujours dans l'exagération, l'excès, et ça fait rire les enfants. Donc, c'est un récit loufoque, plein d'humour, et qui est tout à fait séduisant, parce que ce qui est drôle, c'est qu'on ne le voit jamais, le fameux dessin trop mignon, là. Alors, ça va séduire tous les enfants.
Et ça a séduit, en tout cas, le jury qui a remis le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal, puisque c'est le livre lauréat. Et puis l'autre a remporté le prix... Ah oui, le prix Athanase David, je pense que c'est le plus important prix en littérature.
Oui. Effectivement, c'était remis le 29 octobre à Élise Turcotte pour l'entièreté de son œuvre. Et moi, je voulais juste rappeler que au mois de mai dernier, j'avais parlé de Autoportrait d'une autre, un roman qui m'a passionnée, qui est en fait autobiographique un peu, parce qu'il est question d'elle et de sa tante, qui s'appelle Denise Brosseau, dont on ne connaît rien, mais qu'on apprend à connaître dans cette lecture. Elle nous raconte un peu le milieu des artistes qu'elle a fréquenté au Québec et puis au Mexique, à Paris. Tous ces fragments, ces archives, les consultations, les rencontres qu'elle fait, ça fait qu'on lit ça comme un roman policier, ça se dévore, et c'est aussi finaliste pour le prix des libraires. Donc, on connaîtra le résultat au printemps. Je le conseille, je l'ai adoré, ce livre-là.
Oui, je me souviens, j'avais pris une note en me disant que j'allais le lire, et ce n'est pas fait encore, mais ça viendra. Autoportrait d'une autre, par Élise Turcotte aux éditions Alto.
Oui. Et maintenant, je voulais vous présenter les titres finalistes du prix TD de la littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, qui vont être remis demain après-midi à 13h.
Donc, on pourra... vous avez toutes les informations bien justes.
Oui, puis on pourra peut-être se faire une idée de qui va gagner. Alors, parmi les titres finalistes, il y a « Culotte meurtrière » de Élise Gravel, dont j'ai déjà parlé l'an dernier, au mois de novembre. Elle est une autrice qui va dans le réalisme et qui illustre avec humour pour faire passer des sujets sérieux auprès des jeunes.
Les enfants et les parents l'adorent, hein?
Oui, puis je dirais qu'elle s'implique aussi socialement. Quand il y a un problème, elle va faire des affiches que les gens peuvent publier, reproduire, pour finalement aider les jeunes qui se posent des questions sur toutes sortes de sujets. Alors, c'est un documentaire. Et ça parle de quoi? Du danger de la désinformation, des fausses nouvelles, la théorie du complot. Et c'est divisé en chapitres avec des illustrations, puis un dessin toujours très simple, des phylactères très expressifs, des onomatopées. Et ça fait que c'est des informations très bien vulgarisées pour des enfants. Puis je dirais que les grands vont prendre plaisir à le lire aussi. Et c'est, bon, c'est une vedette, Élise Gravel. Donc, elle peut se permettre de faire des livres comme ça. Elle a commencé par faire des livres d'insectes et de choses dégoûtantes pour finalement séduire son lecteur. Puis maintenant, les lecteurs reconnaissent ses dessins qui sont vraiment un petit contour noir avec de la couleur à l'intérieur. C'est très simple et c'est très efficace.
Et puis l'autre titre en nomination, si je peux dire, dans la course là, pour remporter le prix TD de la littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, s'intitule « Le cumulus machinus ».
Oui, ça c'est paru chez Fonfon. C'est un texte de Hugo Monticone, qui est un globe-trotteur qui fait des conférences, qui a surtout publié pour les adultes. Je crois que c'est son premier livre jeunesse. Et c'est illustré par Orbi, qui sait toujours nous faire rire dans ses illustrations. Et ce récit-là, c'est un récit fantastique. Alors, si le jury opte pour le réalisme, ils vont voter pour Élise Gravel, puis s'ils votent pour l'imaginaire, ça, c'est très réussi. C'est très rare, les livres qui vont vers l'imaginaire de nos jours. On dirait qu'on veut toujours instruire les jeunes à travers les livres, parler des problèmes. Et celui-là, c'est pas ça du tout.
Mais alors, on dirait qu'on s'en prend une autre direction. Là. De plus en plus, on s'en va vers la fantaisie, l'imagination au pouvoir.
On en a besoin.
Oui, on en a besoin, mais on dirait qu'on le ressent là, dans ce qui nous, ouais, dans ce qui nous est proposé en littérature jeunesse.
Oui, puis dans ça, c'est une histoire d'un garçon qui s'appelle Ovid. Et un jour, il se lève, c'est un jour de tempête, il va vérifier, son école est fermée, il est ravi, il va dehors, il commence à faire un bonhomme de neige. Ça tombe, la neige, beaucoup. Quand tout à coup, il tombe à côté de lui, une télécommande en glace qui tombe du ciel. Et là, c'est plus fort que lui. Il appuie sur le bouton et à partir de ce moment-là, la neige, au lieu de tomber, elle va remonter vers le ciel. Lui, qui était en train de faire une fusée en neige, il est emporté avec sa fusée. Et il va aller au monde des bonhommes de neige qui sont en haut, parce que c'est pas vrai que les bonhommes de neige vont. Ils vont juste partir pendant la nuit puis laisser un petit peu de neige molle pour faire croire aux enfants qu'ils ont fondu. Mais ils vivent tous en haut. Puis là, on voit la vie des bonhommes de neige, comment ils fabriquent la neige avec des vélos qui activent des râpes, qui râpent de la glace. En tout cas, c'est complètement fou ce qui se passe en haut. Et là, comment va-t-il faire pour revenir? C'est très bien. C'est divisé en chapitres. C'est très, très, très illustré. Là. Il y a beaucoup plus d'illustrations que de textes et on rentre dans un univers complètement fou et je sens que tous les enfants vont adorer ça. Il y a vraiment une belle chimie entre Orbi et lui et à certaines pages, il y a deux endroits, je crois qu'il y a un flocon. Et là, grâce à une application, on peut finalement aller chercher le flocon et apparaît Orbi qui nous explique comment elle a fait pour illustrer le bonhomme de neige qui est le héros. Comment nous, dans une autre capsule, elle peut nous dire comment nous, on peut dessiner des bonhommes de neige. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et il y a des références culturelles pour les adultes qui vont lire avec l'enfant. Alors ça, c'est vraiment un beau coup de cœur pour moi.
On continue.
Ouais.
Avec Tache d'huile.
Tache d'huile. Oui. Tache d'huile, j'en ai parlé le 10 octobre 2023. Puis, il était finaliste à cette époque-là pour le prix des libraires. C'est un livre de poésie, écrit en rime, là, qui aborde une thématique très masculine. C'est écrit par Jonathan Bécot et c'est illustré par Enzo Laure Mariano. C'est un album illustré où il y a beaucoup, beaucoup de place à l'image. C'est vraiment pour les petits de 6 ans à peu près, sur la relation d'un père avec son fils. Alors, le fils, c'est un artiste, un émotif, mais son père, il est mécanicien. Puis là, il va aller se cacher dans le garage de son père, où il y a là des bruits, de la poussière, des odeurs, mais il se cache puis il se dit qu'il va être près de son papa. Et là, il dit que même si son père est garagiste et puis qu'il fait des choses très différentes, lui, même s'il est un artiste, il est convaincu qu'ils peuvent être différents puis s'aimer en même temps. Alors, c'est une histoire bien touchante sur la différence, finalement, la relation entre un papa et son fils, qui est plutôt artiste. Et c'est rare les récits où tout est au masculin. Alors, à cause de ça, je crois que le jury a retenu Tache d'huile. C'est paru chez Québec-Amérique. Et dans les albums, parfois, il y a des illustrations qui ressemblent à des taches d'huile qui sont sur l'asphalte quand il pleut. Là.
Oui.
Bon, il y a comme un fond comme ça qui nous fait penser.
Des lumières d'arc-en-ciel.
Et voilà, c'est ça. Très, très beau livre de Jonathan Bécot.
Illustré par Enzo Laure Mariano. Et maintenant, un texte de Christine Beaulieu. Ah oui, ouais. La comédienne, là, oui.
Oui, elle qui avait écrit « J'aime Hydro
mm-hmm. ».
Ben, elle a eu une commande pour écrire sur les saumons de la Mythis. C'est paru aux éditions La Bagnole. C'est un livre de 95 pages. Celui-là, c'est sur l'environnement. Fait que selon le jury, là, ce qu'il va à choisir, ben, ça serait la thématique principale de ça. C'est illustré par Caroline Lavergne, qui est une illustratrice que je ne connaissais pas, mais qui a un talent fou, qui a tout fait avec des crayons de bois. Alors, c'est un documentaire illustré
mm-hmm.
qui présente... qui a été écrit d'abord pour être joué au Jardin de Métis. Pendant l'été, les gens arrivaient et elle leur donnait une petite bille. Là, le spectacle commençait, puis elle leur expliquait que la petite bille, c'est comme l'œuf du saumon. Et puis là, ben, à mesure qu'elle expliquait qu'elle racontait le spectacle, il y a des billes qui devaient être remises à l'autrice parce que les saumons mouraient ou diminuaient, etc. Alors, c'est écrit pour être présenté sur scène, mais dans l'illustration, c'est très bien réussi. Par exemple, elle nous dit qu'au départ, il y a, par exemple, 8000 œufs dans la rivière qui vont devenir 500 alevins. Des 500, 115 vont devenir des tacons, puis 58 des saumonaux, et puis au bout, 4 saumons adultes. Là, on voit vraiment la fragilité du saumon, qui effectivement est un animal précaire ici. Et ensuite, il y a toute l'industrialisation qui va venir menacer les rivières, la rivière Métis, entre autres. Bon, puis là, il y a toutes les rivières, la Cascapédia, ça se passe beaucoup en Gaspésie, puis c'est ça, à partir de Métis jusqu'à Gaspé. Les illustrations sont fascinantes parce qu'il y a de l'information à travers. C'est des poissons qui se parlent, puis ils disent, tu viens de quelle rivière? Moi, je viens de la Cascapédia. Ah, moi, je viens de telle autre rivière. Donc, en même temps qu'il y a de l'information, il y a du mouvement. Donc, c'est ce qui fait qu'accompagner un enfant dans la lecture de ce livre-là, ça permet, un, de le sensibiliser à la situation des saumons, mais aussi aux rivières, à l'hydroélectricité, puis un petit peu d'histoire, parce qu'elle parle à un moment donné de René Lévesque qui va vouloir installer l'hydroélectricité, puis que les Québécois vont être ceux qui vont gérer eux-mêmes les rivières, des compagnies qui ont exploité, et entre autres, Elsie Reffer, qui était au domaine de Métis sur mer, qui a fait de la surpêche de saumon. Puis ils disent que c'est la première ennemie du saumon. Et c'est pas la seule. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup trop de pêche. Et puis ensuite, ben, la surpêche commerciale font que ces poissons-là, peut-être qu'on ne pourra plus les pêcher à partir de l'an prochain. Là, il va falloir les remettre à l'eau. On peut les pêcher pour le sport uniquement. Donc, un livre documentaire qui parle de l'environnement. Puis, elle excelle, Christine Beaulieu, à synthétiser toutes ces notions-là pour que ça passe, mais je dirais pour un public un peu plus vieux. Alors, un très beau livre.
On n'est pas dans un ouvrage d'imagination, malgré qu'il y a des illustrations fantastiques, comme vous le disiez.
Ah oui, c'est ça. C'est la manière de parler de ça avec les petites billes.
Oui.
Quand elle dit au public, une personne sur deux doit me remettre la bille. Là, les poissons sont dans l'eau, puis ils ont des dangers de mourir. Là. Fait que ensuite, à mesure que le spectacle avance, il faut remettre les billes, puis à la fin, il y en a un seul que ça bille. Alors ça, c'est intéressant, c'est une approche qui est concrète pour un enfant qui va écouter le spectacle, puis qui la même chose, celui qui va lire le livre, de voir comment c'est fragile et ça tient à peu de choses, et donc le respect de l'environnement. Je pense que ça se peut que ce soit le titre gagnant. C'est possible.
Les saumons de la Métis aux éditions La Bagnole. Et vous terminez avec... c'est un recueil de poésie?
Oui. La couleur de ma différence, c'est chez Héritage Jeunesse dans une collection qui s'appelle Unique, U-N-I-K. C'est un livre de 114 pages, mais avec des poèmes sur l'immigration et la différence. C'est écrit par Alexis McNoël. Et puis, ça parle de racisme, de préjugés, d'estime de soi, d'immigration. Donc, ça raconte des petits textes poétiques où l'auteur va raconter des situations où il a souffert de la difficulté d'être différent dans une classe. Exemple, je cite un petit bout. « Quand je pense à ma nouvelle école, des bulles zigzagent et éclatent dans mon ventre. » Un peu plus loin, il prend l'autobus, il s'en va à l'école, il dit « J'ai peur de me perdre dans ce labyrinthe urbain. » Et un peu plus loin, il va dire « Mon ancienne école me manque. C'était mon or, un espace accueillant pour les enfants d'immigrants. » Donc, c'est tout petit, ces petits poèmes comme ça pour les jeunes. Puis je trouve que c'est une très belle façon d'aborder la poésie tout en parlant de l'immigration, de la différence, sans avoir le discours prêchi-prêcha, là. Et puis aussi, la mise en page dans le livre est très variée. Quand il dit qu'il lisse, bon, ben, les lettres descendent, c'est un petit peu comme des calligrammes. Et ça peut donner le goût aux enfants d'exploiter cette manière d'écrire des poèmes à l'image de ce livre-là. Donc, très beau livre, si on veut aller dans l'immigration, ça serait le thème de celui-là, et de la poésie, de la différence. Moi, j'avoue que je voudrais pas être sur le jury de ces cinq
livres-là. Non, hein? Moi non plus. Alors, c'est La couleur de ma différence aux éditions Héritage Jeunesse. Et on saura donc demain, comme vous le disiez tantôt, à 13h, lequel parmi les cinq titres remportera le prix TD. Grand merci, Anne-Marie, pour cette belle chronique. À la semaine prochaine.